Dans nos sociétés de surveillance, où tous nos moindres faits et gestes sont épiés, contrôlés, calculés, puis enregistrés dans d'immenses bases de données, réfléchir sur le rôle colonial, capitaliste et oppressif de la police et des prisons s'avère plus que jamais incontournable. Quand de nouvelles vidéos d'interventions policières font scandale par leur violence raciste, les dirigeants, les policiers et les politiciens parlent de pommes pourries. Mais si on observe la tendance de fond, ces bavures se répètent depuis des décennies. Les écarts de conduite des policiers sont systématiques, la violence policière est systémique. Il est grand temps d'en finir avec la vision libérale, hypocrite et mensongère, voulant que tous les vices de la police soient le fruit de quelques pommes pourries. Des racines aux bourgeons, les services de police de tous les paliers sont autant de pommiers dégueulasses dans un horrible verger de pourriture. Attaquons-nous donc au verger au complet.
Trigger warning. Nous tenons à vous avertir que cet épisode du verger au complet traite de sujets sensibles, dont les violences sexistes et sexuelles. L'État et la gendarmerie insistent sur le fait qu'il est nécessaire de protéger la population en emprisonnant les personnes qui auraient commis des crimes, et ce, peu importe la nature du crime, ses motifs ou encore les désirs de la victime, s'il y en a. Le chemin vers la prison passe par le processus pénal, qui commence par l'arrestation et qui est suivi de procédures juridiques menant à déclarer une personne criminellement responsable d'un acte commis. Ces mécanismes ont des conséquences catastrophiques sur l'ensemble des personnes détenues ainsi que leur entourage. De plus, ces dernières n'affectent pas les différentes franges de la population de la même manière. Qu'elles soient détenues, survivantes ou encore proches d'une personne incarcérée, les femmes, trans ou cisgenres, sont particulièrement affectées par le système pénal. Dans cet épisode du Verger au complet, on discute ainsi des enjeux liés au féminisme anticarcéral avec Lux, qui est juriste et s'implique également dans différents collectifs féministes, antiracistes et queer. Tout d'abord, comment est-il possible de définir le féminisme anticarcéral? Qu'est-ce qui le distingue du féminisme libéral?
Donc, premièrement, le féminisme libéral est un courant qui est intéressé par l'égalité des droits. Il ne considère pas que le système en soi est de façon inhérente mauvais, mais plutôt que les inégalités proviennent du fait que les principes libéraux ne sont pas assez appliqués. Donc, il suffirait donc de réformes juridiques pour atteindre une égalité des genres. Le féminisme libéral, c'est le féminisme mainstream, qu'on peut aussi appeler de féminisme bourgeois, parce que dans le fond, il avantage juste certaines femmes, soit les femmes cis, hétéra, bourgeoises et blanches. On peut aussi dire que ce féminisme mainstream est un féminisme carcéral parce qu'il croit que la solution aux violences sexistes, c'est la répression et l'emprisonnement des hommes qui commettent ces actes. Le féminisme anticarcéral, c'est quoi? Mais ça s'oppose à cette vision-là. C'est un féminisme qui ne s'intéresse pas juste aux femmes blanches et bourgeoises. C'est un féminisme qui s'intéresse à toutes les femmes et donc et les personnes de la diversité de genre et donc aussi aux femmes qui sont touchées par le système carcéral. Il considère que la prison est nuisible pour les femmes et aussi pour les hommes et que ça ne favorise pas du tout une égalité des genres. Le féminisme anticarcéral est également un antiracisme et un anticapitalisme dans la mesure qu'il comprend la prison comme un outil de contrôle de classe populaire et des personnes racisées. Autrement dit, le système pénal sert les intérêts du capitalisme et la suprématie blanche en plus de renforcer le patriarcat.
Pourquoi les féministes anticarcérales ont-elles eu besoin de formuler une critique anticarcérale dans une perspective féministe plutôt que de se joindre à d'autres mouvements anti-prison, tels que les mouvements de libération des prisonniers et prisonnières politiques ou encore les anarchistes qui sont traditionnellement contre les prisons?
Une analyse féministe est nécessaire parce que la prison affecte différemment les hommes que les femmes. Je vais expliquer cela avec trois situations de femmes qui sont touchées de façon distincte par la prison. C'est une catégorisation qui a été effectuée par Gonelaire et Cordeau dans son livre « Pour elles toutes ». Donc, premièrement, il y a les femmes qui sont victimes de préjudices. Une façon par laquelle le système pénal ne les protège pas, c'est dans la définition même des crimes. Certains préjudices, comme les difficultés d'accès à l'éducation ou à la santé, ne sont pas considérés comme des crimes. Ensuite, il y a aussi le fait que la plupart des violences sexuelles restent impunies par le système pénal, dans la mesure que les femmes ne portent pas toujours plainte, ou en fait, peu souvent. Aussi, le procureur général décide de ne pas poursuivre toutes les plaintes. Et souvent, dans les procès, l'auteur des violences est trouvé non coupable. Ou même lorsqu'il l'est, les peines sont considérées trop minimes. De plus, il est à noter que les profils des victimes influencent la sentence. Autrement dit, lorsque la victime est une femme pauvre, utilisatrice de drogue, cela peut amener une peine plus mince pour l'auteur des actes. Donc, le système pénal, en laissant largement impunis les crimes des hommes envers les femmes, sert les intérêts du patriarcat. Ça, c'est un point que les féministes mainstream y partagent. Par contre, selon ce courant, la solution serait que tous les hommes qui commettent ces actes-là soient envoyés en prison. Mais nous, on considère que le fait que des centaines de milliers d'hommes soient en prison n'est pas une solution féministe. Ça serait plutôt de l'ordre de la vengeance, dans la mesure qu'étant donné le caractère structurel des violences sexuelles en prison, les auteurs de ces crimes risquent d'en être victimes à leur tour aussi. De plus, ça enlève la possibilité pour la collectivité de travailler à réparer et à transformer l'auteur de ces crimes. Aussi, souvent, la victime elle-même ne sait pas ce qu'elle recherche la prison pour l'auteur. Donc, le système pénal ne répond pas aux besoins des victimes de retrouver une maîtrise de leur vie. Puis aussi, le système pénal encourage les acteurs de violence à se prétendre innocents, donc vu la menace de la prison, et donc ça n'encourage pas les auteurs à exprimer des remords. Ensuite, il y a les femmes enfermées. Donc, les femmes incarcérées appartiennent majoritairement aux classes populaires, sont issues de l'immigration, de l'histoire coloniale, un niveau d'éducation inférieur au reste de la population, généralement, beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis aussi, il y a une sous-représentation de femmes lesbiennes et de femmes trans. Puis, il faut noter qu'une grande partie des personnes femmes en prison ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance ou leur vie, parce que donc même si elles ne sont pas en lien, elles ne sont pas allées en prison pour le fait d'être victime, il faut prendre ça en considération. Aussi, il faut prendre en considération que pour des raisons de socialisation, les femmes agissent plus rarement seules pour leurs crimes. Donc souvent, il y a un homme dans le décor qui, par exemple, qui sans lui, une complicité, sans lui, elle n'aurait pas commis le crime. Aussi, il faut voir que les conséquences de la prison sont différentes pour les femmes dans la mesure que elles se retrouvent plus souvent isolées. Les hommes conjoints quittent plus les femmes incarcérées que ce que les femmes font aux hommes incarcérés. Et ils ont aussi plus de difficultés à se trouver un partenaire par la suite. Aussi, il y a la majorité des femmes qui sont incarcérées pour l'homicide d'un proche, elles ont été des fois victimes de cette personne, donc des fois elles sont enfermées pour s'être défendues face à la violence du patriarcat. Puis finalement, il y a les femmes qui sont des proches de personnes incarcérées, et donc c'est parce que à cause de la socialisation, ce sont surtout les femmes qui ont le rôle social de le travail de care, le travail de soins. Donc, c'est important de voir toutes les femmes qui sont pas emprisonnées, mais qui sont touchées par la prison. Il y a énormément de coûts, notamment monétaires, mais aussi émotionnels. Par exemple, le fait d'avoir son conjoint en prison, c'est difficile pour la relation. Aussi, souvent, les proches vont ressentir de la honte. Ils sont stigmatisés comme étant coupables par association. Ils peuvent avoir des symptômes dépressifs aussi. Donc, c'est difficile à vivre, être un proche d'une personne incarcérée.
Sans télé, sans patron, sans état ni patrie. Une jolie maison à deux pas de la sortie. Où la vie est douce grâce au miel de chacune. Que ça tire ou ça pousse, ça se sert les plumes. Pas envie, pas le goût de vivre chacune pour soi. Ça réchauffe, voyez-vous, de partager. We'll be right back.
Le système de justice est intentionnellement compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas fait d'études en droit. Serait-il possible de nous expliquer la conception du système de justice et à quoi pourrait ressembler une justice anticarcérale?
Oui, donc le système judiciaire et administratif peut être vu comme étant composé de plein de sous-systèmes. Donc, en ce qui concerne les préjudices qui sont criminalisés, il y a le système criminel, le système du droit civil, puis le système de l'IVAC. Voyons les fonctions de chacun. Donc, le but du droit criminel, c'est la dissuasion de la population par la menace de la prison, qui marche pas très bien, en fait. Il y a aussi la rétribution et punition. Donc, c'est lié à l'idée qu'une infraction mérite d'être punie. Donc, c'est proche de la vengeance, d'une certaine façon. Il y a aussi la réhabilitation, un objectif qui est très mal rempli par le système carcéral, et l'élimination, éliminer la présence d'une personne en société, surtout pour les peines à perpétuité. Donc, il faut comprendre que dans le droit criminel, c'est la relation entre l'État et les individus. C'est parce qu'on considère qu'un individu a brisé, d'une certaine façon, le contrat social, qui est de respecter les lois, qu'il a envers l'État, donc que celui-ci le réprime en retour. Donc, l'accent n'est pas mis sur le tort qui est causé à la victime. La victime n'est qu'un témoin. Ensuite, dans le droit civil, mais le droit civil, ça sert à gérer les relations entre les gens. Donc là, oui, la victime va être agente. Ça sera, par exemple, la personne demanderesse, la victime, contre la personne défenderesse, l'agresseur. Donc, le droit civil peut couvrir les actes de violence, dont les violences à caractère sexuel. Dans ce système-là, il y a les principes de responsabilité et de réparation. Par exemple, pour un cas d'agression sexuelle, une victime pourrait recevoir de son agresseur, s'il est trouvé responsable, un montant qui correspond aux dommages matériels et émotionnels qu'elle a subis. Ici, l'État, ce n'est pas une partie. Donc, comme j'avais mentionné, le problème est que, pareillement avec le système criminel, la menace de payer un montant élevé pèse sur la partie défenderesse, ce qui fait en sorte que l'agresseur, par exemple, il va tenter de se défendre et nier la version de la victime. Donc, ça n'encourage pas vraiment la responsabilisation puis l'accountability. Aussi, si jamais son agresseur est pauvre, bien, la victime... son jugement ne lui servira pas parce que la personne peut déclarer faillite et donc la victime ne pourra toucher à rien. Finalement, il y a l'IVAC, qui est le système d'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui a récemment été réformé. Donc ici, les victimes peuvent faire une demande pour recevoir un montant ou des services, tels que des services psychologiques, dépendamment de leur situation. Elles n'ont pas besoin d'avoir fait une plainte à la police préalablement et elles n'ont pas besoin de connaître même le nom de l'agresseur. Donc, c'est vraiment la relation État-victime qui est ici en jeu et le but est la réparation. Donc, on considère que le crime est un problème social pour lequel l'État doit assumer certains coûts. Par contre, ici, le problème, c'est que ça ne responsabilise pas les agresseurs parce qu'ils ne sont pas au courant qu'une demande a été faite. Donc, les agresseurs ne sont pas responsabilisés dans ce système-là. Donc, on voit que ces deux derniers systèmes sont imparfaits, même s'ils sont plus intéressants que le droit criminel, qui, lui, est clairement oppressif. Donc, une justice anticarcérale féministe, selon moi, mettrait l'accent sur les principes de réparation, de responsabilisation et accountability et transformation. Donc, c'est une justice transformatrice qui prendrait en charge les besoins des victimes, tels que les services psychologiques et autres, puis la responsabilisation, donc mettre en place un cadre dans lequel les agresseurs, les personnes qui ont commis des préjudices, sont encouragés à prendre responsabilité sur ce qu'ils ont fait, à comprendre et voir comment est-ce qu'ils peuvent demander pardon, puis réparer d'une certaine façon les torts, s'engager à ne plus commettre des tels actes, puis le tout en ayant les besoins des victimes en avant-plan.
Une des questions centrales du féminisme anticarcéral est celle de la violence à caractère sexuel. Tu nous as parlé des façons dont les féministes anticarcérales veulent y remédier, notamment avec la justice transformatrice. Mais voudrais-tu élaborer un peu plus sur la perception ou la compréhension de ces violences d'un point de vue féministe anticarcéral?
La vision du féminisme anticarcéral est vraiment opposée à celle du système pénal, dans la mesure que dans la conception du système pénal, ce sont des actes isolés, les violences sexistes et sexuelles. Ce sont des actes isolés, faits par des individus isolés. Et donc, la répression individuelle, ça marcherait. Donc, nous, dans le féminisme anticarcéral, on considère que, étant donné le caractère systémique des violences sexuelles, bien, il y a un besoin pour une réponse systémique et pour un accent sur ce qui fonde les violences, c'est-à-dire le patriarcat. Donc, c'est important de voir les violences genrées comme s'inscrivant dans les systèmes d'oppression, dont le patriarcat, mais aussi la suprématie blanche et le capitalisme. Donc, on ne peut pas combattre ces violences-là sans s'attaquer au système d'oppression. Donc, ça passe par l'éducation, la prévention, puis aussi, comme mentionné plus tôt, la justice transformatrice. Et donc, dans une conception où les agresseurs, ce n'est pas des monstres et ce n'est pas des exceptions. Donc, voilà. Mais je tiens à dire aussi que le féminisme anticarcéral ne cherche pas à blâmer les victimes qui utilisent le système pénal dans la mesure que il y a peu, des fois, de ressources actuelles pour avoir des procédures de justice informatrice, surtout avec des personnes qui ne sont pas dans nos communautés. Par contre, il faut le voir plutôt comme un échec collectif lorsque on a recours au système pénal. Et en te prendre des mesures qui favorisent notre autonomie en lien avec la justice transformatrice.
No amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre,
las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen más nada pa' que el corazón no le falle.
Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chongis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las femmes, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado.
A las que miran de reojo, de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas.
Somos las que no se rinden jamás.
Somos las hijas bastardas de la sociedad.
Quelle est la vision des féministes anticarcérales sur la police?
Ouais, le féminisme anticarcéral, il dépasse juste la prison. Dans le fond, ça s'attaque vraiment au système pénal au complet. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux de parler d'abolitionnisme pénal féministe. Donc, il s'attaque à l'ensemble d'institutions qui concernent la pénalité, c'est-à-dire la police, la justice criminelle, puis la prison. Et aussi, donc, à toutes les mesures post-prison aussi, comme la probation, puis avoir les agents de probation, etc. Donc, l'abolitionnisme pénal n'est pas réductible aux luttes seulement contre la prison. Puis, c'est aussi intéressant de ne pas avoir cet accent-là juste sur les prisons, dans la mesure qu'il y a aussi des mesures, comme le bracelet électronique, qui dépassent les murs de la prison, mais qui constituent la surveillance et qui concernent la pénalité. Donc, la police est une institution répressive dans son essence même et donc opprimante dans son essence même. Donc, c'est sûr que les féministes anticarcérales s'y opposent également.
Quels sont les collectifs féministes anticarcéraux actifs à Totiaké, Montréal? En quoi consiste leur travail?
Il n'y en a pas tout à fait. En fait, il y a des collectifs contre les prisons, comme il y a un collectif qui s'appelle Collectif contre les prisons, Anti-Carceral Group aussi, qui, j'imagine, doivent avoir une vision féministe aussi dans leur travail. Sinon, il y a aussi le collectif féminisme et droit associé à l'UQAM, qui est composé de militantes juristes de gauche, puis qui, dans le passé, ont eu des activités sur le féminisme anticarcéral, parce que certaines, notamment, s'intéressent à la profession aussi de criminaliste, donc dans la défense des personnes accusées, ou dans le ou pratiquer le droit carcéral pour les améliorer les conditions de vie de personnes détenues. Mais c'est ça, le collectif, ça se concentre pas juste sur les luttes anticarcérales. Donc, ce qui veut dire que le terrain est là pour des groupes qui voudraient se former, des groupes féminisme anticarcéral. Je pense que ça serait vraiment des plus pertinents.
Comme nous l'avons vu dans cet épisode, le système carcéral n'est pas une solution souhaitable pour répondre aux violences sexistes. Non seulement tout le monde n'est pas égal devant le système de justice, mais les prisons ne règlent en rien les violences du patriarcat. Elles les accentuent. Or, il n'existe pas de solution unique pour réparer les torts causés à autrui, ni pour guérir des blessures subies. C'est pourquoi nous devons réfléchir dès aujourd'hui aux moyens les plus adaptés à nos besoins et nos réalités. Plusieurs ouvrages proposent des pistes pour régler nos conflits avec une justice transformatrice et de nombreuses alternatives à la police ainsi qu'au 911. On vous laisse en description des listes de ces outils. C'est tout pour cet épisode du Verger au complet. On vous revient sous peu avec du nouveau contenu et d'ici là, la manifestation annuelle du collectif opposé à la brutalité policière aura lieu ce 15 mars à 17h30. Le départ a lieu au métro Lionel-Groulx. La manif a pour thème cette année « La police, c'est colons en crise ». On se voit dans la rue!